petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
En général, presque tout le monde pense que mon prochain, c'est autrui. Autrui dont je dois prendre soin. Ben, c'est ce que l'on comprend, par exemple, dans l'exhortation classique, aimer son prochain. Aimer son prochain. Or, dans la parabole du bon samaritain, le Christ demande lequel s'est montré le prochain de l'homme tombé au moins aux mains des brigands. La réponse, tout ça est dans, par exemple, l'évangile de Luc, chapitre 10, la réponse, c'est que, je cite, « le samaritain qui a exercé la miséricorde envers lui. C'est lui le prochain. Le samaritain qui a exercé la miséricorde envers lui. » Le pape a raison d'insister. Dans son encyclique « Fratelli Tutti » d'octobre 2020, parce que, ici, le prochain n'est pas d'emblée celui qui bénéficie de la charité. Le blessé, comme on pourrait le croire, le blessé au bord du chemin. Non, c'est à l'inverse celui qui fait œuvre de charité, le samaritain. C'est lui le prochain. Il y a une inversion de la compréhension commune. Attention, nous sommes au cœur du christianisme. La question initiale de la parabole était bien, je cite, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Fin de citation. Le Samaritain est le modèle et c'est lui le prochain. Pas de prime abord. Le blessé au bord de la route, ce n'est pas lui de prime abord, ce n'est pas le blessé qui est le prochain. Finalement, le prochain n'est pas l'état de proximité, le fait d'être proche, l'état de proximité de quelqu'un, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être le prochain, ce n'est pas un état passif. Non, le prochain est le résultat d'une action. Le prochain est le résultat d'une volonté. Selon l'expression de François, dans la deuxième partie de son encyclique, le prochain est, je cite, « celui qui se fait proche, tel le Samaritain. » Du coup, celui qui se fait proche, qui se rend proche du blessé, fait aussi de ce blessé son prochain, le prochain du Samaritain. Blessé à secourir et Samaritain sauveteur peuvent être appelés prochains réciproques. Mais en premier lieu, j'insiste, en premier lieu, en premier temps, c'est le sauveteur qui est le prochain en se faisant proche du secouru. Cette compréhension change tout. Je n'ai pas seulement à aimer ceux qui me sont proches, famille, région, nation, corporation professionnelle. Non, je n'ai pas donc seulement à aimer ceux qui me sont proches par une proximité passive. J'ai aussi à aimer en me faisant proche, en me rendant proche de ceux qui semblent lointains. C'est le cas du Samaritain, frère ennemi des habitants de la Judée à l'époque, qui va se rendre proche de ce qui lui était totalement étranger, lointain. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la fraternité universelle et l'amitié sociale, autre formule, de l'encyclique, prennent tout leur sens évangélique. se rendent proches du lointain, se rendent proches des migrants, se rendent proches des fidèles d'autres religions difficiles parfois à comprendre, etc. Je crois que beaucoup de catholiques pourraient méditer cette parabole et agir en conséquence, moi le premier. Le pape pose alors la question aux Européens. Êtes-vous le prochain des migrants et des croyants d'autres religions? Êtes-vous les prochains des lointains? Est-ce que vous vous faites proche de ces lointains que sont les migrants? Êtes-vous comme le Samaritain, le prochain du blessé, celui qui se rend proche de l'agressé étranger? La réponse du pape dans son encyclique Fratelli Tutti est sévère pour l'Europe. Je nuancerai. D'ailleurs, son propos sur l'Europe s'est un peu repris. Et d'ailleurs, depuis le 23 septembre 2020, c'est récent, l'Union européenne met en place un nouveau dispositif d'accueil et de partage des charges des immigrés entre les 27 États de l'Union européenne. En même temps, et le pape dit le comprendre, l'Europe ne peut pas accueillir un nombre infini de migrants si c'est pour en faire systématiquement des chômeurs. En revanche, la Méditerranée ne doit pas être le cimetière des désespérés de l'Afrique et du Moyen-Orient. Ce serait inexcusable. Sans compter la Turquie d'Erdogan, qui, financée par l'Europe, a sur son territoire 4 millions de réfugiés issus d'Irak et de Syrie. C'est malheureux. sont l'objet d'une nouvelle traite des êtres humains, objet de chantage turc pour faire pression sur l'Europe dans la reconquête par Erdogan de l'ancien empire ottoman. Ceci dit, la fraternité universelle est une ouverture à l'altérité et à la diversité de tous les hommes. Elle est le contraire d'un repliement sur soi, fond de commerce des populismes d'extrême droite ou d'extrême gauche qui cultivent le nationalisme de triste mémoire. Cela ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à notre identité française et européenne. Le pape écrit qu'il faut, je cite, s'identifier solidement pour mieux rencontrer les autres. Fin de citation. Il y a là une ligne de crête. À trop s'identifier à son histoire, on ferme aux autres, et à ne pas suffisamment s'identifier à son histoire, on se dilue dans le relativisme cosmopolite. La fraternité est un mot au sens très fort et complexe. Les terroristes islamistes se disent frères entre eux, mais leur fratrie est clivante et donc xénophobe. La fraternité universelle n'a pas de clivage ethnique, religieux ou idéologique. Elle implique des liens plus forts que la solidarité, car le lien entre frères se reçoit à la naissance, alors que les liens de la solidarité sont à construire avec beaucoup d'aléas. Là, les religions ont un rôle décisif dans la société. Nous ne pouvons vraiment nous sentir frères que si nous savons avoir une paternité commune. Et cette paternité est Dieu. Régis Debray, athée, a beaucoup écrit sur la fraternité. Il explique que cette idée vient du christianisme et, faute de Dieu, il y a quand même pour lui ce qu'il appelle un invariant sacré. Cette fraternité universelle devrait pouvoir s'exprimer dans la gouvernance du monde. Mais il n'y a pas de gouvernance du monde, comme le déplore François. L'ONU est essentiellement aux mains des grandes puissances nucléaires qui siègent au Conseil de sécurité. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ne prend de décision qu'à l'unanimité. Et le FMI, le Fonds monétaire international, dépend de ses principaux financiers. Cette absence d'état de droit mondial crée une grave contradiction en morale politique. En effet, les États, environ 200 dans le monde, sont souverains et la souveraineté est ce sur quoi rien ne l'emporte. À l'intérieur de chaque État, la violence du citoyen est interdite. C'est une faute grave. L'État, par sa police, sa justice et son armée, a le monopole de la violence, selon la formule du philosophe Max Weber. Le monopole de la violence, l'État, le monopole de la violence, pour que force reste à la loi. Nul n'a le droit de se faire justice lui-même. C'est même la définition de l'état de droit. Mais hors de l'état souverain, il n'y a plus d'état de droit, si ce n'est un embryon fragile de droit international. Dès lors, les citoyens ont non pas l'interdiction de la violence, mais au contraire, le devoir d'être ensemble violent contre l'étranger ennemi si l'État le demande. C'est le patriotisme en situation de guerre. Deux poids, deux mesures. À l'intérieur de l'État, la violence est une faute. À l'extérieur de l'État, la violence contre l'ennemi est un devoir. Eh bien, ça, le pape n'en veut plus. La fraternité universelle ne parvient pas à se faire entendre. L'amitié sociale dont parle François cherche, dit-il, à nouer des relations de confiance. C'est par elle qu'une gouvernance mondiale peut se négocier peu à peu.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.